de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Apolline Verlon et Guillaume Ploquin à la réalisation pour nous interroger sur les bactéries, les milliards de bactéries qui nous entourent et nous composent pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Nous vivons en effet dans un monde de bactéries. Elles sont à l'origine de toutes les formes de vie et sont présentes partout, sur Terre, dans l'air, dans l'eau, dans le sol et dans notre corps. 100 millions de bactéries par centilitre de salive, 50% du poids de notre intestin constitué de ces minuscules êtres vivants qui pourraient même influencer notre comportement. Longtemps considérés uniquement comme vecteurs de maladies, les bactéries font aujourd'hui l'objet de toutes les recherches. Pourquoi et comment? C'est ce que nous vous proposons de découvrir avec notre invité, le biologiste John Eric, autour de la question « Les bactéries sont-elles une chance pour l'humanité ?» Bienvenue.
Merci.
Bonjour John Eric.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes biologiste, enseignant et écrivain scientifique. Vous menez vos recherches sur l'évolution du génome des vertébrés à l'ENS, à l'École normale supérieure de Cachan, en collaboration également avec la Simon Fraser University au Canada. Et vous venez de publier dans la collection Les petites pommes du savoir, les bactéries sont-elles une chance pour l'humanité? Point d'interrogation. Pourquoi et comment, John Eric, les chercheurs comme vous, précisons aussi que vous avez étudié la philosophie avant de vous intéresser aux bactéries. Pourquoi les chercheurs comme vous ont-ils changé de regard sur ce monde de bactéries?
Je ne sais pas s'ils ont vraiment changé le regard. C'est plutôt que depuis longtemps, la bactérie était un système pour l'investigation, surtout à cause du fait qu'ils sont des pathogènes. Mais aussi, ils sont appliqués dans plusieurs aspects de la vie, la fermentation, l'agriculture, etc. Donc, je ne sais pas si la vie ou le regard a changé tellement. C'est juste qu'on commence à comprendre les bactéries qui n'étaient pas de premier intérêt, c'est-à-dire celles qui ne sont pas pathogènes.
C'est-à-dire que elles ne sont plus considérées, ces bactéries qui nous entourent, on va y venir, pas seulement comme des ennemis ni comme des menaces, mais comme un monde en soi, des parties de nous à étudier, parce qu'au fond, c'est la plus grande partie du monde vivant.
Bien sûr, les bactéries, c'est 50% de la biomasse de la Terre aujourd'hui. Et on commence à comprendre à peine quelle est la diversité, la biodiversité des bactéries, qu'est-ce qui sont leurs fonctions dans l'écosystème, etc.
Autour de la question, pourquoi les bactéries sont-elles aussi une chance pour l'humanité? Première piste de réflexion sonore tout de suite, avec le mix forcément bactériologique d'Apolline Verlon-Raison et Guillaume Ploquin.
Nous avons toujours vécu avec les microbes, les bactéries, il y en a partout. Elles nous colonisent pour le meilleur, mais aussi pour le pire. N'oublions pas tout le problème des terribles épidémies qui nous ont menacés et qui nous menacent encore.
Microbes et bactéries ne sont pas des amis.
Ce que nous sommes n'est pas déterminé uniquement par ce qui est humain en nous. Nous sommes influencés par nos ancêtres, les bactéries.
On est dans un environnement rempli de bactéries, j'en ai sur ma peau, il y en a, si je touche la table, je vais en ramasser.
Il y a 1000 fois plus de bactéries dans chacun de nous que d'étoiles dans notre galaxie.
200 familles différentes, 100 000 milliards d'individus, c'est le nombre des bactéries dans notre tube digestif.
Hey, vous savez quoi? On est des millions de bactéries et on sera bientôt des milliards.
We are more bacteria.
Nous sommes davantage bactériens que nous ne sommes humains.
Tout est une question d'équilibre. S'il y a un déséquilibre, s'il y a une partie de diversité bactérienne qui est perdue, c'est là où il y a des problèmes de santé.
Gel Javel hygiène longue durée. Il extermine toute bactérie.
On parle de microbes à quelqu'un, ça va tout de suite être quelque chose de négatif, de problème d'hygiène, de saleté, de pathogène. Mais non, la majorité du monde microbien, c'est un monde bénéfique.
Sans bactéries, la survie est difficile.
Les bactéries contenues dans la flore intestinale seraient capables d'influencer notre cerveau.
Et nous découvrons aujourd'hui qu'elles influencent qui nous sommes et comment nous sommes.
Who we are and how we are.
Ces bactéries qui nous gouvernent, John Henrik, vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre?
Les bactéries autour de nous sont invisibles, et les bactéries à nos intérieurs, ils ont un effet direct sur nous, sur le comportement, sur la santé. Et c'est une question d'équilibre. On parle de symbiose, c'est-à-dire une interaction proche et permanente entre différentes espèces, et aussi dysbiose. Et chez les bactéries, chez nous, quand il y a une dysbiose, ça mène à la maladie.
C'est-à-dire quand on s'entend moins bien avec toutes ces bactéries qui nous composent, on va y venir. Hein, mais d'abord, on va essayer de s'arrêter justement sur ces bactéries qui sont d'abord les plus anciens êtres vivants sur Terre. C'est ça, à l'origine, au fond, de tout le vivant.
C'est ce qu'on croit. Les bactéries sont apparues sur la Terre une centaine de millions d'années après la formation de la Terre. Donc, ils sont les plus vieux êtres vivants sur Terre.
Et tous les êtres vivants sur Terre, justement, aujourd'hui, ont au fond une origine bactérienne.
Oui, on peut dire ça parce qu'il y a toujours, dès le début, dans l'évolution, il y a toujours cette idée d'une première organisme à partir duquel tous les autres sont évolués. Et aussi, une des plus grandes forces dans l'évolution, c'est la symbiose. Et ça, c'est le brassage de différents organismes. Nous sommes, par exemple, faits à partir de bactéries et aussi des virus qui sont intégrés dans nos génomes. Qu'ils ont apporté des fonctions, surtout au niveau du cerveau. Il y a une enzyme qui existe, qui provient des bactéries, qui est impliquée dans la modification et la fabrication des neurotransmetteurs, par exemple.
Donc nous, les humains, sommes des bactéries. Des bactéries et des humains, on peut le dire comme ça. On est fait de bactéries.
On est descendu de bactéries et de virus. Et nous sommes
différence, d'ailleurs, entre bactéries et virus. Parce qu'un de nos auditeurs nous disait, mais au fond, il est à Brazzaville, il nous dit, mais pourquoi les virus ne sont pas considérés comme des êtres vivants alors que les bactéries
sont
des êtres vivants.
C'est controversé, ça. Ils ne sont pas considérés des êtres vivants parce qu'ils ne peuvent pas vivre de manière indépendante. Ils sont ils sont obligés de vivre sur ou dans les cellules.
Alors que les bactéries sont considérées comme des êtres vivants, comment elles vivent, ces bactéries?
Ça, c'est une question énorme. Ils vivent... la façon dont ils mangent, par exemple, c'est par la diffusion. Donc, ils émettent des enzymes à l'extérieur qui vont digérer autour d'eux la nourriture. Et cette nourriture, les nutriments, vont, par manière de diffusion, entrer dans la cellule.
Donc chaque
bactérie a son propre habitat, son propre niche sur lequel ils vivent.
Et capable de vivre, enfin, ces niches, elles peuvent être dans des milieux les plus extrêmes possibles. Quand c'est dans notre intestin, c'est extrêmement acide. Quand c'est dans des zones de la Terre ou des océans, particulièrement dans les zones les plus profondes des océans, il y en a aussi des bactéries.
Donc elles sont quoi ? Par millilitre de...
Des millions de bactéries par millilitre.
Une cuillère de l'eau de l'océan contient un million.
Donc c'est gigantesque, c'est énorme. Ouais. Ce sont des organismes capables de s'adapter quoi, à toutes les conditions?
Oui, c'est des génies pour l'adaptation.
C'est pour ça que vous cherchez à les étudier?
Oui, en quelque part, c'est d'étudier. Ils sont un modèle idéal pour étudier l'évolution, surtout la production des mutations et comment ces mutations vont... agir sur l'évolution des espèces.
Mais jusqu'à maintenant, on considérait quand même, enfin nous en tout cas, les bactéries comme transmetteurs de maladies. C'était quand même ça, les bactéries, c'était ça. Alors en fait, on se rend compte qu'il y en a partout et que c'est vraiment à l'origine de la vie et presque indispensable, en tout cas fondamental pour le développement de la vie.
Oui, exactement. Les bactéries qui sont pathogènes, qui nous rendent malades, c'est pourquoi on pense que les bactéries, on a l'idée que les bactéries sont nocives. En fait, c'est parce qu'on les constate quand on est malade. Mais la maladie, c'est une adaptation que la bactérie a induit chez nous pour développer des symptômes qui vont répandre ces gènes et dans l'environnement pour faciliter, favoriser la prolifération de ces bactéries.
Donc c'est les bactéries elles-mêmes.
Adaptation de
oui, qui savent comment nous rendre malades pour elles-mêmes se développer, c'est ça.
Exact.
Et les bactéries elles-mêmes, heureusement, elles meurent aussi parce que sinon, on n'aurait même plus la place d'exister tellement il y aurait de bactéries.
Exactement.
Sur la Terre.
Si les bactéries ne mouraient pas, ils seraient tellement abondants, c'était un poids dans quelques mois plus important que le poids du.
Plus plus important que le poids de l'univers, les bactéries. Les bactéries sont-elles une chance pour l'humanité? Point d'interrogation aujourd'hui, avec ou sans microbes. Sur RFI, on écoute Gaylor Dordiam, sans microbes.
Pachan de qui la sans microbes. T'as la yokuna qui toque, on dirait mouta yokou salatali soumouté. C'est-à-dire tamboli, esekeli, elobeli, isaleli, zotonio so y santo. Nalinga yo, pacha, qui toque on a yo. Et la mouissinga, namo, ritinanga eleki. Ataya moto yo, ameli, zamba mobima yabangi. Pachan de qui la. Micha Ferrari,
mon colonel Moutepe.
Na lula yo pacha, kitoko na yo, elangwe singa, kwitilanga yeleki, adamo doyo, yameli, bale mobimba ya whisky.
Da wiso si.
C'est vrai que na suye un genou.
Mapafuna yo,
ezalaki,
obimbo si mama.
José Kongoloma ya Pembe, Mama Loris la Congolaise, Zaina Mwana Mvuamu. Miss Margot Sassa.
Fais-moi câlin, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi bisous, oh naïba. Sentiment l'amour, mon laïnango, et ça va mettre tout à kilomètre.
Tchitchandekila, lissandekila.
Donnez-moi l'amour, et ça m'a monté mano. Donnez-moi l'amour,
Raoul et ton nom.
Si naïba, kula rambolimo, pembe d'amo, indo, yé yé yé.
Chrissia de Corde, mon major Tshisekedi.
Mais ça fait la gueule à Zui Angelou.
C'est
comme un papou
d'ailleurs. Et Zalaki, mon plus petit mama.
Président Chavani Record, le PDG Michel Adilouya, Gagelor Dordiam.
Pacha Amou, n'est qu'il a sentiment.
Sans microbes, le Congolais Gaylor Dordiam sur RFI. Autour de la question, les bactéries sont-elles une chance pour notre humanité? Nous découvrons avec notre invité, le biologiste John Eric, que nous sommes, comme tous les êtres vivants, le véhicule et l'écosystème de milliards de bactéries qui nous composent. Quand on s'échange un baiser sur la bouche, John Eric, on échange combien de bactéries?
Je l'ai pas compté.
Oh, c'est trop, hein.
Mais c'est quand on parle de 10 puissance 8 1000 bactéries, 10 puissance 8 bactéries par millilitre de salive.
On se rend compte.
On peut compter, estimer de cette manière.
Donc en fait, c'est un échange entre deux humains, mais c'est aussi un échange entre plein de bactéries.
Exactement.
L'ensemble de tous les microbes et toutes les bactéries qui nous composent, donc dans notre corps, on appelle ça le microbiome.
Voilà.
Autour de la question donc des bactéries, et sont-elles l'avenir, une chance pour notre humanité, je vous propose un autre éclairage, celui d'un chercheur en écologie de l'évolution. Il s'appelle Samuel Allison, il travaille au CNRS et il vient de publier aux éditions du Seuil « C'est grave, docteur Darwin, l'évolution, les microbes et nous ». Il est interrogé par Charlie Dupiot.
En fait, on a des bactéries sur toutes nos surfaces, donc sur la peau, mais aussi sur l'intestin, tout ce qui est en contact avec l'extérieur. Et donc, en gros, on définit comme ça ce qu'on appelle des microbiotes. Donc, en gros, il y a le microbiote buccal, la peau, autour des organes sexuels et intestinales. Enfin, on a découvert, en fait, tout un monde. Alors, quand je dis on a découvert, c'est un peu biaisé aussi parce que, en fait, on connaissait l'existence de ces bactéries déjà au 19e siècle. Il y a, par exemple, un article de Theobald Smith de 1887 où il dit qu'on sait très bien qu'il y a différentes espèces de bactéries qui peuplent nos intestins et qu'on comprendra les dérangements intestinaux le jour où on comprendra l'écologie de ces bactéries. Mais les travaux de la génétique ont apporté plus d'informations sur la composition de ces communautés. Et par exemple, juste pour comparer, il y a certains types de flore bactérienne, par exemple la flore intestinale. Ce qui est important, c'est qu'elle soit la plus diversifiée possible. En fait, on considère qu'une flore diversifiée, c'est un signe de bonne santé. Et donc ces microbiotes nous rendent des services. Maintenant, c'est devenu assez commun en fait que les bactéries peuvent avoir un rôle positif, que les microbiotes sont importants. On se rend compte, entre parenthèses, qu'en fait, finalement, beaucoup d'études qui ont été faites par le passé où on ne contrôlait pas ce microbiote, que certains résultats obtenus par le passé pourraient potentiellement être expliqués par des différences de microbiote. Voilà, beaucoup de résultats devraient peut-être être réanalysés à l'aune de ces microbiotes.
Jean-Éric, vous êtes d'accord? On devrait réanalyser beaucoup de résultats à l'aune, justement, en regard de ces microbiotes?
Réanalyser, ça fait partie de la science en général. Mais l'idée de le microbiote date depuis, comme il a dit, 19e siècle. Et les apports sur la santé, les bénéfices qui s'apportent, c'est connu depuis Elie Metchnikoff, qui a établi la théorie de probiotiques. Ce sont des bactéries qui aident la santé, qui aident à le bien-être, etc.
Mais tout de même, on a l'impression que c'est quand même une forme de révolution hein, qui date de quelques dizaines d'années, mais d'un organe oublié. Hein. Dans ce livre, d'ailleurs, vous dites que le microbiome serait un organe oublié. Notre intestin. Hein.
Pourquoi c'est oublié? Oui. C'est ça la question. C'est oublié, comme nous avons parlé tout à l'heure, c'est oublié par le fait qu'on était focalisé sur les pathogènes. Alors, on n'a pas... On
avait sur les mauvaises, sur les voilà, sales...
Exactement. Voilà. Et on comprenait microbes. Pas, on comprenait pas à l'époque si ces bactéries avaient un rôle ou non dans la santé et bien-être de l'organisme humain. C'est Metchnikoff, je crois, qui était le premier pour avoir proposé que c'était effectivement les bactéries, les lactobacilles, bifidobactéries...
Qui pouvaient être utiles pour la santé.
Qui pouvaient être bien pour la santé.
Mais en même temps, un de nos auditeurs, là, c'est à Abidjan, nous dit, mais finalement, on s'est énormément protégé contre les bactéries. On a fabriqué des antibiotiques qui nous servent toujours. Il y a des bactéries qui développent des résistances, d'ailleurs, à ces antibiotiques aujourd'hui. On s'est protégé contre. C'est comme si on n'avait pas pensé qu'on pouvait, ça pouvait aussi être des alliés, quelque chose de cet ordre-là.
C'est-à-dire que les bactéries peuvent nous aider. Oui, c'est, les bactéries nous aident au niveau de la protection contre l'infection. Des pathogènes, que je parlais tout à l'heure. Aussi, ils sont importants pour le développement du système immunitaire lors de l'enfance, aussi du système nerveux central. Donc, il y a beaucoup de bénéfices qu'ils apportent chez l'être humain, qu'on vient de comprendre plus récemment grâce à ces fameuses souris qui sont sans germe. Alors, ces souris sont malades. S'ils n'ont pas de...
Des souris qui n'ont pas assez de...
Qui n'ont pas de germes du tout. De germes.
De germes de bactéries sont malades. Donc en fait, on est malade si on n'a pas du tout de germes de bactéries. Voilà. Si on en a trop ou si c'est déséquilibré.
Plutôt déséquilibré, oui.
Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Vous dites dans ce livre, Jean-Éric, les bactéries, une chance pour l'humanité, point d'interrogation, qu'elles sont un peu des sentinelles du corps, parce qu'il y en a partout. Il y en a dans la bouche, on l'a dit, il y en a dans les intestins, il y en a dans les yeux, il y en a sur la peau, il y en a partout.
Encore une fois, les bactéries jouent un rôle très important dans la régulation du système immunitaire. Le microbiome des vertébrés et le système immunitaire, ils ont évolué ensemble depuis 500 millions d'années.
Donc les bactéries et les grands êtres et les animaux avec qui elles cohabitent.
Voilà. Donc ils nous protègent contre les bactéries qui sont pathogènes, mais aussi ils sont importants pour le bon fonctionnement du corps. Les suinotobiotiques, c'est-à-dire sans germes, ils sont souvent malades, des allergies, etc. Donc se laver trop peut entraîner des eczémas, etc.
Donc aujourd'hui, en fait, c'est un autre regard sur ces bactéries, sur leur rôle, qu'on commence quoi, juste à véritablement comprendre.
Quand on parle de 50% de la biomasse de la Terre, c'est l'organisme le plus abondant de Terre. Il y a 50 000 différentes espèces de bactéries dans le sol.
On n'a pas fini de les étudier, on va continuer.
On n'a pas fini de les découvrir.
On va continuer dans 3 minutes, juste après le flash d'info autour de la question « Les bactéries sont-elles une chance pour l'humanité ?» qui est aussi le titre de votre livre. Jean-Éric, on continue donc de s'interroger avec nos milliards de bactéries. Ça promet, à tout de suite.
RFI, la sélection du mois.
Abdal Malik. Autour de la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie. En compagnie du biologiste John Eric, nous découvrons pourquoi et comment nous sommes habités, gouvernés et entourés par des milliards de bactéries, pour le pire, mais aussi pour le meilleur, autour de la question qui est aussi le titre de son petit ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Pommier. Les bactéries sont-elles une chance pour l'humanité ?
Alors c'est une très bonne question. Moi je dirais plutôt que les bactéries nous précèdent. C'est ni une chance, ni une malchance, c'est que sans elles, il n'y aurait pas d'humanité tout court. Et les bactéries, c'est un monde tellement passionnant et qui nous permet d'avoir une telle humilité, puisque si je vous pose la question, bactéries c'est animaux ou pas animaux ? Ben non, on sait que maintenant le terme animal ne concerne que les métazoaires. Donc c'est un terme un peu bardard, pour montrer juste que l'animal n'est juste qu'un tout petit phylum de l'arbre du vivant. Et donc ça montre à quel point nous sommes tout petits dans le monde du vivant, qui est absolument majestueux et fantastique.
C'était le vétérinaire de faune sauvage Norin Chai qui nous rappelait à notre humble condition humaine face à ces milliards de bactéries. Nous sommes bien peu de choses, John Eric.
Nous sommes dans la minorité dans notre propre corps. C'est-à-dire
en minorité dans notre propre corps.
Il y a 100 fois plus de gènes, par exemple, chez le dans le microbiome que dans nos propres génomes.
C'est-à-dire que vous et moi, nous avons plus de gènes de bactéries que de gènes humains.
C'est ça. Et il y a environ 1,3 à 10 fois plus de cellules bactériennes dans le corps humain que de cellules humaines.
Vous avez d'abord fait des études de philosophie, je crois, avant de mener des recherches en biologie, notamment sur Escherichia coli. Oui, mais ça invite à un questionnement philosophique que de savoir qu'on est quoi, qu'on est fait de bien plus de bactéries que de gènes humains, enfin, au niveau des gènes.
Ça pose des questions philosophiques, bien sûr.
Et ça pose des questions scientifiques, bien sûr aussi. On disait que l'intestin, on va y revenir, à notre deuxième cerveau, qui abrite lui aussi des milliards et des milliards de bactéries, qui communiquent avec notre cerveau et qui influencent notre comportement. On peut désormais étudier cet organe oublié et toutes ces bactéries, parce que quoi ? Parce qu'on a les moyens de le faire grâce à la génétique, John Eric ?
Oui, récemment, il y avait des avancements au niveau des technologies qui permettent un traitement énormément de données, qui n'était pas possible ou faisable avant, surtout au niveau des séquençages, des gènes qui permettent l'identification de nouvelles espèces de bactéries et à la fois la caractérisation des interactions entre jusqu'à 1000 espèces différentes chez le microbiome qui forment cet écosystème chez nous.
Écosystème, donc à l'intérieur de notre corps, nous avons un véritable écosystème.
Écosystème partout, dans tous les habitats, sur le corps, comme on vient de dire, il y a un microbiome oculaire, il y a un microbiome de la peau, il y a un microbiome de l'intestin.
C'est-à-dire que dans nos yeux, par exemple, ou dans nos poumons, ou dans notre bouche, il y a un véritable écosystème de différentes bactéries, de milliards de bactéries.
C'est ça, oui. Milliers d'espèces. Oui.
Et dans nos yeux, c'est assez particulier, on ne le sait pas trop, mais on voit grâce aux bactéries.
Ce n'est pas qu'on voit grâce aux bactéries, ils sont là, ils vivent en symbiose avec les tissus qui font partie de l'œil, et les larmes, etc.
Ce que vous étudiez aussi, John Eric, c'est à quel point toutes ces bactéries et cette coévolution sont fondamentales pour le développement de notre cerveau humain.
Tout à fait. En fait, l'inoculation de l'enfant lors de la naissance par la mère de son microbiome est très important pour le développement correct du cerveau. Alors, quand il y a une dysbiose,
un déséquilibre lors de l'enfance, dans les bactéries,
ça peut avoir des retombées à l'âge adulte, la période adulte des problèmes cognitifs et psychologiques.
C'est-à-dire que les bactéries nous font ce que nous sommes, on peut le dire comme ça ?
On n'est pas sous le contrôle de nos bactéries, mais on est sous l'influence.
On est sous l'influence de nos bactéries.
Tout à fait.
Et alors ces bactéries, en plus, que nous hébergeons, elles communiquent à l'intérieur de nous, elles sont dans notre intestin. Et on dit aujourd'hui que l'intestin est notre deuxième cerveau parce que ces bactéries communiquent avec notre premier cerveau, on peut le dire comme ça.
C'est ça. En fait, les neurotransmetteurs qui on pense en général sont dans le cerveau, 50% des neurotransmetteurs sont fabriqués par les bactéries.
50%.
Et ce sont des neurotransmetteurs qui sont en communication avec le cerveau.
C'est donc que ce sont nos bactéries qui influencent aussi nos comportements, nos manières d'agir. On peut aller jusque-là. Aujourd'hui, on peut le dire.
Oui, tout à fait.
Et comment ça? Comment ça fonctionne, ça?
D'abord,
un exemple, peut-être, Jean-Éric? Oui.
Il y a le nerf vague, qui est le nerf qui gère toutes les fonctions végétatives dans le corps humain, qui est en communication, surtout la digestion, qui est en communication directe avec le cerveau et qui lie le cerveau avec l'intestin. Et le microbiome, il y a un effet direct sur la signalisation, la communication par la voie de vague, la nerf vague.
Par le nerf vague. Voilà. C'est-à-dire que si on digère mal, ça peut influencer notre comportement, donc nos actions, donc ce qu'on est.
Et vice-versa. En fait, cette découverte, c'est très ancien. C'était début du 19e siècle. Il y avait un médecin qui s'appelait Beaumont, qui a eu une patiente qui s'est tirée une balle au niveau... C'était un trappeur canadien qui s'appelait Alexis de Saint-Martin, qui s'est tiré une balle au niveau de l'estomac. Ça a mal cicatrisé, qui a permis une fenêtre ouverte sur la digestion, sur l'estomac. Et Beaumont, il a pris cette opportunité de... étudier la digestion. Et lors de ses expériences, il a énervé Alexis. Et il a constaté qu'il y avait un effet sur la digestion direct quand Alexis était fâché ou énervé.
Donc une communication directe entre le cerveau du haut et le cerveau intestinal.
Voilà, c'est la première fois qu'on a vu une interaction directe entre le cerveau et la digestion.
Donc ça implique énormément de choses et aujourd'hui on peut l'étudier ça, mais ça a des implications énormes. C'est-à-dire qu'au fond, on est quand même assez gouverné par nos bactéries.
Gouverné, ça c'est aller un peu trop loin pour moi. On est certainement influencé. Nos états affectifs, par exemple, sont liés à, à la digestion et à l'effet de microbiome sur le cerveau. Lors de la dysbiose, par exemple, il y a ça déclenche l'inflammation. L'inflammation va avoir un effet sur le système nerveux entérique qui va, par le nerf vague, communiquer ses malheurs au cerveau, qui va ensuite entraîner un état dépressif, etc.
Donc ça peut aller jusqu'à la dépression, d'où l'intérêt vraiment de comprendre comment fonctionnent ces bactéries à l'intérieur de nous-mêmes. Je propose de retrouver pour un nouvel éclairage le biologiste Samuel Allison que nous avons entendu en première partie, qui étudie l'origine et l'évolution de ces milliards de bactéries. Il est interrogé par Charlie Dupiau.
Ça nous apprend sur nous. Parce que, en fait, l'espèce humaine a coévolué avec ses bactéries. Pour la plupart des organismes, l'évolution se fait à l'échelle d'années. Là, pour les micro-organismes, c'est l'échelle de jours. Si vous revenez au bout d'une semaine, vous allez voir une population qui a évolué. Et donc, c'est un des rares cas où vous avez vraiment une preuve, en fait, tangible et rapide de l'évolution biologique. Et ça nous apprend aussi sur notre futur, entre guillemets, parce qu'on peut, en étudiant cette évolution, comprendre l'origine de certaines maladies, voire espérer les traiter. Et en gros, c'est l'idée que si vous comprenez l'évolution des systèmes bactériens, bah vous n'allez pas être surpris le jour où une bactérie qui jusque-là était mutualiste ou commensale parvient à devenir pathogène. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir un coup d'avance sur l'évolution.
Les bactéries sont-elles une chance pour l'humanité, selon vous ?
Elles sont là, quoi. C'est-à-dire que c'est ni une chance ni une malchance. C'est vrai que la vision consistant à voir des bactéries comme un problème est évidemment exagérée. La vision considérant avoir les bactéries uniquement comme quelque chose de positif est aussi finalement extrême. Certaines bactéries extrêmement pathogènes sont... on peut difficilement y voir quelque chose de positif. En fait, ce que ça pose comme question, c'est la question de qu'est-ce que l'individu biologique. Parce que jusque récemment, l'individu biologique, c'était facile, c'était nos cellules qui forment un être unique. Ces bactéries qu'on a dans l'intestin ou par exemple sur les organes génitaux ou dans la bouche, le système immunitaire les tolère en fait. Mais voilà, maintenant de plus en plus, on se rend compte que finalement, sans ces bactéries et sans ces virus, on se rend compte que sans ces micro-organismes, finalement, on ne peut pas fonctionner. Et du coup, se pose la question de qu'est-ce que l'individu ? Est-ce que ces micro-organismes appartiennent à notre individu ou pas ?
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, John Eric? Nous sommes humains ou bactériens? Est-ce que ces micro-organismes appartiennent à notre individu?
Je dirais plutôt être humain, c'est d'être bactérien à la fois. C'est une relation mutualiste.
D'aide, d'entraide, enfin de symbiose, hein, c'est ça.
Voilà. Ils vivent chez nous, sur nous, et ça, c'est un bénéfice que nous apportons aux bactéries. Et les bactéries, ils apportent des bénéfices à nous au niveau de la digestion, etc.
Et ces bactéries, qu'on a longtemps considérées comme uniquement vecteurs de maladies, pourraient aussi, du coup, peut-être aider à soigner certaines pathologies. Vous avez parlé du lien entre la digestion et notre humeur, donc du lien avec la dépression, par exemple, même avec le cancer. D'en savoir plus sur ces bactéries permettrait peut-être de nous soigner.
Il y a deux façons d'aborder cette question. Premièrement, c'est les probiotiques. Ce sont des cultures vivantes de bactéries qui vont rétablir une symbiose normale, un équilibre normal dans l'intestin, qui va ainsi de suite aider, par exemple, dans l'obésité.
Dans l'obésité, voilà. Oui. Parce que c'est très lié à au microbiote, donc à la diversité, c'est ça, des bactéries que nous hébergeons.
Le plus grand biodiversité dans le microbiome, le plus sain.
Donc plus on a un nombre, un nombre divers et varié. C'est la biodiversité, voilà. Là encore, qui est bénéfique. C'est la biodiversité, c'est de ne pas avoir qu'une seule sorte de bactérie. C'est ça, en fait.
Alors, 90% de microbiome de l'intestin, c'est composé de deux phylas ou deux groupes de bactéries différents, le Firmicutes et les bactériodètes. Et il semble, dans tous ces cas de maladies, rapport altéré entre les Firmicutes, la biodiversité des Firmicutes et la biodiversité de bactériodes.
Donc les traitements, ce serait quoi? Ce serait d'ingurgiter une plus grande diversité de bactéries que celles qu'on a dans notre corps
Le traitement, ce serait d'essayer de trouver des moyens pour les prébiotiques, ce sont des nourritures, etc., qui favorisent la croissance d'un certain type de bactéries qui pourraient être éventuellement liées à une maladie. Et également de trouver des probiotiques qui vont renverser des effets négatifs d'une dysbiose.
En gros, manger des yaourts, c'est mieux que manger des carottes, puisqu'en France, on dit que les carottes mettent de bonne humeur, mais les yaourts mettraient de meilleure humeur, c'est ça?
Et en fait, ils ont fait des études avec les yaourts aux États-Unis, je crois que c'était peut-être en Irlande, où les personnes qui ont participé dans ces recherches, ils ont mangé deux fois par jour le yaourt et ils ont après répondu à un questionnaire sur leur état psychique. Et ils ont trouvé que le yaourt a eu un effet calmant sur les gens qui mangeaient, alors que les gens qui ne mangeaient pas, ils étaient plus angoissés.
Donc, mangeons des yaourts. Et Napoléon lui-même aurait perdu certaines batailles parce que ses bactéries étaient en déséquilibre, c'est ça?
C'est anecdotique. Oui, on dit que Napoléon, à cause de ses hémorroïdes, avait pris des décisions qui étaient un peu maladaptives, qui lui a coûté la bataille de Waterloo.
Donc il aurait mieux fait de suivre...
Manger son yaourt.
De manger son yaourt, Napoléon. Ben ça, c'est un bon conseil. Vous avez vous-même d'ailleurs démarré vos recherches en travaillant sur l'ulcère, je crois, John Eric, et sur l'ulcère qu'on croyait lié à des tempéraments un peu colériques. Et en fait, c'est peut-être la raison inverse.
En fait, ça, c'est une des découvertes qui a motivé en quelque sorte cet intérêt dans des bactéries. Et leur influence sur les conditions dépressives, etc. Alors, le paradigme pour longtemps était que l'ulcère était d'origine psychologique.
Qu'on avait un ulcère d'origine psychologique, oui.
Qui a déclenché trop d'acide dans l'estomac, qui a abîmé la paroi sur l'estomac, etc. Alors, quand on a découvert le H. pylori, c'est une bactérie qui est associée à, je ne sais pas, le chiffre, plus que 20% des ulcères. Vous avez compris qu'en fait, il y a une origine bactérienne des ulcères. C'est donc peut-être l'inverse, c'est les ulcères qui créent...
Qui engendrent un tempérament plutôt colérique, plutôt nerveux. Voilà. Donc dans quel sens est-ce que ça marche autour de la question « Les bactéries sont-elles une chance pour l'humanité ?» Je propose de rester dans l'hygiéniquement incorrect avec Juliette. Sur RFI, les doigts dans le nez.
Tu me dis mon amour, plus de 20 fois par jour, que ce n'est pas élégant et très peu ragoûtant. Mais vois-tu ces ballots, je ne suis pas comme il faut, et je peux pas m'empêcher, à longueur de journée, mettre mes doigts dans mon nez. J'ai malgré moi bien trop d'émoi à dénicher ces trésors de poussière et d'or pour ne pas céder aux voluptés de mes doigts et de mon nez. Mon amour, je l'avoue, j'aime ce doigt de mystère, ambigu, sans tabou. Ce plaisir nécessaire doit rester une affaire solitaire, autrement c'est vulgaire. Pour autant, je le fais pas en secret dans le noir, et l'on me surprend parfois avec ou sans mouchoir sur scène à la télé, égaré quelques doigts dans mon nez. Malgré moi, bien trop de moi à dénicher ces trésors de poussière et d'or pour ne pas céder aux voluptés de mes doigts et de mon nez. Autant de poésie collée sous le clavier ou semée dans Paris, je me tire les vers du nez, mon doigt trouve la rime féminine au fond de mes narines. C'est la preuve agaçante de mes facilités, savante en dilettante, vraiment décontractée, maniant le subjonctif, l'air naïf et les doigts dans le pif. Il eût fallu que j'eusse bien peu d'émoi à dénicher ces trésors de poussière et d'or pour que je ne cédasse point aux voluptés de mes doigts et de mon nez.
C'est Juliette qui le chante sur RFI, les doigts dans le nez, en compagnie du biologiste John Eric. Nous nous intéressons aux milliards de bactéries qui nous habitent, nous entourent et nous influencent ici sur Terre. Et qui sait, ailleurs aussi dans l'espace, autour de la question « Les bactéries sont-elles une chance pour l'humanité ?» Je vous propose un dernier éclairage sidéral, celui de Jacques Arnoux, historien des sciences et spécialiste des questions éthiques au CNES, le Centre d'études spatiales.
Il est vrai que pour les exobiologistes, ou en tout cas ceux qui ont le regard tourné vers la vie extraterrestre possible, les bactéries, c'est soit la meilleure des nouvelles ou la pire des nouvelles. C'est-à-dire que ce serait la meilleure des nouvelles parce que sans doute que les formes que nous trouverons sur des planètes seraient d'abord bactériennes, parce qu'on, ou alors on les aurait déjà vues. Par exemple, sur une planète comme celle de Mars, si la vie existe aujourd'hui, c'est pas des formes, des organismes supérieurs, donc plutôt des bactéries. Donc là, ce serait plutôt une bonne nouvelle. C'est aussi une mauvaise nouvelle quand on envoie des sondes. Ce sont ces formes-là que nous voulons nous débarrasser. Donc c'est vrai que les bactéries, c'est vraiment celles qui nous disent toujours que l'homme n'est pas seul.
L'homme n'est pas seul et il a même réussi à contaminer avec ses bactéries le sol de la Lune, c'est ça ?
Oui.
John Eric, oui. Nous raconter ça ?
Oui, c'était lors des missions d'Apollo, ils ont envoyé des sondes sur la Lune. Les sondes ont été contaminées par une bactérie qui vient du nez.
Ah, qui vient du nez ?
Oui.
Les doigts dans le nez ? Les astronautes devaient avoir les doigts dans le nez, non ?
Bah, c'était les techniciens qui préparaient la sonde. La sonde est restée 3 ans sur la Lune. Et après, ils ont récupéré l'engin, ils l'ont ramené sur Terre, ils ont cultivé, ils étaient capables de cultiver, ils ont réussi à cultiver les bactéries. Donc, ces bactéries ont vécu 3 ans sur la Lune.
Donc, dans des conditions insensées.
Survécu.
Elles ont survécu. C'est le propre de ces bactéries, c'est d'être capable de vivre dans tous les milieux et dans les conditions les plus extrêmes.
Oui, ils sont très adaptés. Ils sont des génies de l'adaptation. Ils peuvent vivre sous forme de spores pendant des milliers d'années. Ils peuvent entrer dans un état dormant qui peut durer des années, des mois. Donc, ils sont capables de s'adapter à la radiation et à toutes sortes de conditions qui sont normalement pas possibles pour la vie.
C'est-à-dire que les bactéries nous ont précédés et qu'elles vont probablement nous survivre.
C'est sûr.
Ça, c'est sûr. Hein. Et est-ce que justement, quand on cherche de la vie extraterrestre, ailleurs dans l'espace, les formes de vie qu'on pourrait imaginer trouver, ce serait de l'ordre de ces bactéries, justement?
Oui, les archibactéries, les extrémophiles qui vivent dans des conditions qui sont de chaleur et de froid extrêmes, qui ne peuvent pas supporter la vie humaine, par exemple, ou des animaux.
Oui, donc c'est vraiment dans l'espace, ce seraient ces formes de vie bactériennes et qui sont tellement résistantes qu'au fond la question elle est comment s'en débarrasser, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a évidemment toutes ces bactéries pathogènes, tous ces virus qui surgissent aujourd'hui, comment s'en débarrasser de ces bactéries qui sont si résistantes justement?
Bon, on ne pourrait jamais se débarrasser des bactéries, nous avons réussi à faire extincte certains virus comme le variole, etc. Le fait que les bactéries sont tellement adaptables, une fois on a une antibiotique contre cette bactérie, cette espèce de bactérie, éventuellement il va apprendre à survivre à cette attaque sur son vivant.
C'est une course aux armements un peu perdue d'avance de notre côté.
Exactement ça. Maintenant, à cause de l'utilisation massive des antibiotiques, on entre dans une période où il y a presque 20 ou 30% des gens qui sont résistants au traitement antibiotique. C'est un très grave problème. Une des réponses à ces problèmes que les chercheurs examinent aujourd'hui, c'est le développement d'autres produits chimiques et aussi des phages.
Des phages, c'est alors des virus. Les phages, justement, ce sont des virus. Hein, on a dit que les virus étaient des organismes, on ne sait pas s'il faut les appeler vivants ou pas, mais en tout cas, ce sont des organismes qui peuvent lutter contre les bactéries, dévorer les bactéries.
Voilà,
c'est ça,
ils infectent les bactéries, ils les tuent. Et c'est une vieille idée qui date depuis les années 20. Les Soviets, ils ont essayé de développer cette technologie antibactérienne. Et on reprend ça maintenant à cause de cette crise antibiotique.
Donc c'est-à-dire au fond se servir de la vie elle-même et des propres ennemis des bactéries pour au lieu d'amener finalement là il s'agit pas de ramener de la chimie ou des antibiotiques, mais il s'agit d'utiliser la vie elle-même, donc de comprendre
les virus,
mieux
oui.
Les virus.
Par exemple, il y a 1000 espèces différentes dans le microbiome de l'intestin, mais
1000 espèces différentes, oui, dans le microbiome de l'intestin.
Voilà, et associé avec ces 1000 espèces sont 10 000 virus, des phages qui infectent ces bactéries.
C'est une piste dans laquelle vous croyez, ces phages mangeurs de bactéries, John Eric?
La technologie, ce sera difficile à développer parce qu'il faut trouver l'ADN qui va spécifier de manière très précise le phage contre une telle bactérie, une espèce de bactérie.
Oui, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on ingurgite des phages virus tueurs de bactéries qui tuent
en
plus
fait,
qu'il ne faut.
Pour le traitement de brûlures, etc., il y a des sociétés qui veulent développer des phages qui vont en fait attaquer et tuer les bactéries qui infectent les brûlures, les situations extrêmes et graves comme les brûlures.
Les bactéries sont-elles une chance pour l'humanité? C'est le titre en point d'interrogation de votre livre, hein,
oui. Une chance pour l'humanité dans le sens où nous avons une source, une nouvelle technologie qu'on peut développer pour notre bien au niveau de traitement de maladies, au niveau de la bioremédiation, c'est-à-dire de nettoyer l'environnement, etc. Donc c'est une voie ouverte pour le développement de nouvelles technologies qui peuvent apporter des bénéfices à l'humanité.
Piste à suivre donc, merci Jean-Éric d'être venu en direct sur RFI.
Merci.
Partager toutes ces recherches et ces interrogations étonnantes pour en savoir plus. Donc sur toutes ces bactéries, les bactéries, une chance pour l'humanité, point d'interrogation, petit livre très clair et très complet que vous avez publié, Jean-Éric, aux éditions du Pommier dans la collection Les Petites Pommes du Savoir. Merci à vous.
Merci.
Continuerons l'exploration d'autres formes de vie inattendues dans les abysses, au fond des océans. Nous embarquerons à bord du Pourquoi pas, sur les traces des sous-marins et des robots, des chercheurs de l'Ifremer en très grande profondeur, avec Apolline Verlon-Raison et Guillaume Ploquin à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, amis auditeurs, portez-vous bien. Surtout, restez curieux et gardez l'esprit libre et ouvert à l'écoute des informations dans une poignée de secondes sur RFI.
Mondoblog avec l'atelier des médias.